Je ne sais pas s'il y a des questions, parce que là, j'ai fait une petite introduction générale. Je ne sais pas quel est le point, souvent, sur cette question de la décroissance. Je préfère quand même qu'il y ait un temps important pour l'interaction, parce que votre niveau de connaissance sur tel ou tel sujet, j'ai abordé plein de choses. Peut-être qu'il y a des choses qui vous sont semblées bon, évidentes, entre guillemets. D'autres choses, peut-être, qui vous ont semblé appeler beaucoup d'explications. Donc, pour ça, je préfère aller laisser un bon temps pour la discussion. Pour pouvoir revenir sur les points qui vous intéressent plus précisément.
Ouais. Écoutez, votre propos est très convaincant. J'ai envie de vous poser la question de l'étudiant. On fait quoi maintenant? Il y a un aspect que vous n'avez pas abordé.
Tout à fait.
Celui de la démographie.
Ah oui.
Une solution pour la dénatalité. Oui.
Alors, question difficile. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Oui. Répéter la question.
D'accord. Alors, la première question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et la deuxième question, c'est, oui, mais la démographie. Alors, première question, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, ce qu'on fait maintenant, ce que je réponds dans ce cas-là, c'est qu'on se renseigne sur ce qui existe déjà. C'est-à-dire, j'ai donné quelques exemples, hein. Il y a le journal de la décroissance, il y a la revue Silence, il y a plein d'alternatives partout qui sont déjà, et en général, quand on met le doigt dans une alternative, on trouve plein d'autres alternatives. Allez voir le film demain, qui a l'air très bien. Voilà, ça, c'est... Qu'est-ce qu'on peut faire là tout de suite en sortant de la salle? C'est se mettre dans tous ces réseaux-là où les choses sont en train de changer. Donc c'est une réponse très concrète. Après, moi je ne suis pas du tout dans une approche, et je pense qu'il ne faut pas l'avoir, dans une approche où on dirait ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. C'est-à-dire la voiture c'est pas bien et le vélo c'est bien, par exemple. Parce que pourquoi? Il y a plusieurs raisons. C'est ce que dit Serge Moscovici dans la théorie des minorités actives, la psychologie des minorités actives. Il dit que le principe de changement le plus puissant, ce n'est pas le conformisme. Donc dire le vélo c'est bien et la voiture c'est pas bien, c'est le conformisme. C'est dire tous pareil, il y a un seul mot d'ordre, il y a un seul geste bien, il faut que tout le monde fasse la même chose. Et c'est le principe d'originalité. Et le principe d'originalité c'est quoi? C'est de dire il y a accord sur les diagnostics, c'est-à-dire que oui, le climat il faut changer, tout ça. Mais sur les manières de répondre au problème, il peut y avoir une diversité. Parce qu'il y a une diversité de situations, parce qu'il y a une diversité de vécu aussi, c'est-à-dire que chacun peut apporter un truc auquel les autres n'ont pas pensé. Donc, il faut laisser le principe d'originalité dans les solutions qui sont à mettre en œuvre. C'est aussi pour ça que je renvoie à tous les réseaux et pas à dire, il y en a un qui est bien et les autres, ils ne sont pas bien parce que ceci et cela. Donc chacun s'approprie le problème à sa manière, et c'est aussi un principe qui est en cohérence avec la dimension spirituelle, parce que comme vous savez peut-être, dans une démarche spirituelle, ce qu'on vous dit en premier, c'est personne ne fera le travail à votre place. Et donc chacun a la responsabilité de ce qu'il va devenir, et personne ne peut devenir à sa place. Donc chacun a son parcours, et ce qu'il faut qu'il découvre, c'est son parcours. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire voilà ce qu'il faut que tu fasses, que la personne le découvre par elle-même. Et c'est ça la démarche spirituelle, en fait. Hein, spirituel, ça veut juste dire la vie de l'esprit. Hein, spirit, esprit, la vie de l'esprit. Nous sommes des êtres qui avons besoin de sens. La vie de l'esprit, c'est le sens tout simplement au sens de la direction. Où est-ce que je dois aller? Qu'est-ce qui me parle vraiment? C'est ça la base. Après, sur la démographie, question compliquée. Question compliquée, parce qu'à l'échelle mondiale, ce que je ne peux pas donner de réponse là-dessus non plus, mais ce que je peux dire, c'est où en est le débat à l'échelle mondiale. Parce qu'à l'échelle mondiale, quand j'ai dit 9 milliards d'habitants, c'est à l'échelle mondiale. Ça paraît évident, mais ça va mieux quand même en le disant. Et à l'échelle internationale, le débat sur la démographie commence dans les années 70 avec le sommet de Stockholm sur l'environnement humain. Donc sur l'environnement humain, donc pas sur le développement durable, ni sur la décroissance. Donc c'était un sommet plutôt sur les pollutions, plutôt sur les pollutions et les nuisances, et plutôt sur les pollutions et les nuisances locales, ce sommet-là. On n'était pas dans le changement climatique, la biodiversité. Quelques-uns déjà, des lanceurs d'alerte, disaient, regardez, bien sûr, mais la thématique, c'était pas celle-là. Et quand le sommet a eu lieu, il a été boycotté par l'Union soviétique. Il faut se souvenir qu'on est dans les années 70, on est en pleine guerre froide, donc ce n'est plus pas vraiment le contexte actuel. L'Union soviétique boycotte, les pays en développement arrivent, les pays développés disent la démographie et la pollution, il ne faut pas que vous vous développiez comme nous, et en plus, votre démographie pose un problème. Ce qui a été rétorqué tout de suite, c'est un, on a des politiques démographiques, Deux, vous, quand il y a un individu qui naît chez vous, il pèse beaucoup plus qu'un individu chez nous. Donc le problème, ce n'est pas la pollution, c'est le mode de vie. Le débat existe encore. Si vous avez suivi les négociations sur le changement climatique, la COP21, les argumentaires des uns et des autres, alors aujourd'hui, il est devenu un peu secondaire comme débat, hein, mais le débat existe toujours. Et il y a toujours à la fois la question du nombre et la question de l'impact par individu. Et quand on regarde simplement le nombre, eh bien, il faut voir que là où il y a des politiques démographiques, eh bien, c'est dans les pays en développement, en Chine et en Inde, depuis 40-50 ans, il y a des politiques démographiques très fortes, voire même, on pourrait dire, liberticides parfois. Et là où il n'y en a pas, où la natalité est encouragée, eh bien, c'est en France, par exemple, aux États-Unis. Hein. Alors, c'est là où on commence à voir comment ça devient compliqué, le débat, parce que quand on regarde les endroits en France où la démographie est la plus forte, un des endroits, c'est les familles catholiques, notamment les grandes familles catholiques riches. Vous voyez, les enjeux sociaux arrivent très vite, et on comprend pourquoi il n'est pas si facile que ça de parler de démographie. Yves Cochet, qui a proposé à la fin des années, vers 2009-2010, de supprimer les aides... les aides à partir du troisième enfant, je crois, et puis un plafond de revenus et un plafond de nombre d'enfants. Bon, ça a fait un tollé. Au lieu de parler de démographie, d'écologie comme il voulait, voilà, tout le monde a dit mais il est fou, c'est... et il s'est fait éjecter tout de suite. Donc moi, la démographie, je veux bien, mais fait, c'est débat compliqué.
je suis pas d'accord avec vous, parce que les projections de l'ONU et autres sur l'Afrique, c'est 1 milliard de plus d'ici 2050. Quelles sont les projections pour la France d'ici 2050? Donc, on ne parle pas de la même chose.
C'est-à-dire, vous voulez dire que les gens qui
migrent depuis l'Afrique vers l'Europe ne sont pas des Français qui migrent au centre de la France. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a des problèmes démographiques importants en Afrique, en Moyen-Orient et autres, couplés avec peut-être des problèmes climatiques, mais ça n'a rien à voir avec les catholiques.
Non, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'en termes de politique, démographique, dans les négociations internationales, quand vous commencez à dire aux grands pays qui sont en forte croissance, encore en forte croissance, relativement forte croissance démographique, comme la Chine et l'Inde, qu'il faudrait peut-être que la démographie, c'est un sujet important pour eux, ils vous rétorquent aussi vite que c'est vous le problème et que c'est pas eux. Et ce qui n'est pas complètement faux. C'est ça que je veux dire. Après, les cas comme... en Syrie ou au Moyen-Orient, où c'est des déstabilisations de sociétés entières, c'est un peu différent, quoi. Hein. Mais voilà, c'est ce qui répond en premier. Donc, et ce n'est pas complètement faux. Donc je pense qu'il faut prendre cette question au sérieux. C'est effectivement le nombre, pourquoi pas, mais là encore, avant voilà, il faut balayer devant sa porte avant d'expliquer aux autres pays ce qu'ils doivent faire. Juste pour la petite anecdote, hein, l'un des États où la transition démographique a été la plus rapide, il y a tout un passif à cette histoire-là, hein, l'un des États où la transition démographique a été la plus rapide, c'est le Kerala en Inde, qui a un PIB très faible et une espérance de vie très élevée. Et le Kerala en Inde, quel est le secret du Kerala? Ben, l'un des secrets, c'est d'avoir, disons, un niveau d'inégalité extrêmement faible par rapport à d'autres États. Ils ont un taux d'alphabétisation des femmes notamment très élevé. Ils ont une politique particulièrement démocratique, on va dire, des inégalités particulièrement faibles. Donc voilà, c'est tout ça qui fait qu'une société va contrôler sa démographie ou pas. Quand on regarde, toujours pour remettre un petit peu de contexte, hein, la transition démographique en Europe, c'était surtout au 19e siècle. Et qu'est-ce qui s'est fait? Ça a été quoi la réponse? La colonisation avant ça. La colonisation. Où sont partis les Irlandais? Ils sont partis aux États-Unis, ils sont partis en Amérique latine, ils sont partis en Australie. Bon, aujourd'hui, les grands pays comme la Chine et l'Inde n'ont pas cette possibilité. Ça fait aussi partie de la problématique démographique. Bon, ça ne répond pas à tout, hein, mais moi, je n'ai pas de réponse simple là-dessus. C'est juste pour un peu étayer un peu la complexité, montrer un petit peu la complexité de cette question. Donc, on arrive vite à des choses où on se dit, bon, comment réguler, quoi, hein, à part le choix individuel.
Bah, disons que, s'agissant de la politique du colibri, c'est bien. Certains d'entre nous, certainement, ont déjà œuvré dans ce sens-là. Mais au fond, personne ne croit à l'efficacité de ces démarches individuelles, dans la mesure où tous les tabous, les deux principaux, c'est la croissance, article 1, la démographie, article 2, sont écrasants. Et on voit mal comment les choses pourraient bouger dans le sens d'une, de la zéro croissance, de la régulation vraiment énergique, sans crise majeure. Une crise cataclysmique, je veux dire, à l'échelle continentale ou à l'échelle mondiale. Comment ça arrivera, on n'en sait rien encore. Mais qu'est-ce que vous répondez à ce type de prévision alarmiste ?
Moi, je dis que je ne suis pas Madame Soleil, et personne d'autre d'ailleurs, que si effectivement on regarde les tendances sont celles que j'ai dites un petit peu très rapidement, mais vous avez l'air de toute façon bien au courant, sur le climat, sur les ressources, sur tout un tas de choses, et que, voilà, telle est la situation. En agissant, il y a un côté un peu pétition de principe, enfin, évidence de dire que dans une situation donnée, hein, c'est Sartre qui explique ça. Il dit, la majorité est un état statistique. Quand on regarde dehors, on voit tout un tas de gens qui prennent leur voiture, donc on se fait une idée de la majorité, de cette manière-là, au travers de ce qu'on peut observer, de ce que les gens font. Mais on ne sait pas ce que les gens pensent. On ne le sait pas parce que ça ne se voit pas. Et pour tout un tas de raisons, on ne sait pas comment les gens réagiraient s'il y avait tout d'un coup un signe qui permettait de, disons, de ce qu'on est en train de se dire là, que tout le monde en parle partout. Et qu'il y ait tout un tas de changements qui se mettent en place très rapidement. C'est arrivé dans l'histoire, ça. C'est arrivé dans l'histoire. Si vous regardez la chute du mur de Berlin, par exemple, il ne s'est presque rien passé. Et puis tout d'un coup, tout s'est effondré et la société s'est mise à changer très brutalement. La révolution de 1789, pareil. Les choses ont changé très profondément en très peu de temps. Avec peu de catastrophes. Enfin, peu de catastrophes au sens, pas beaucoup de morts. Rien n'empêche d'imaginer qu'une transition comme ça ait lieu. On ne peut pas l'interdire. Donc, on peut se dire que quelque chose de cet ordre-là pourrait se produire dans un avenir proche. C'est pas impossible du tout. Donc, on peut regarder le côté négatif en disant, voilà, les tendances, elles sont mauvaises, seule une catastrophe, même une catastrophe, hein, parce qu'une catastrophe, pour qu'elle provoque un changement, il faut encore comprendre pourquoi il y a une catastrophe. Il y a un certain nombre d'effets, enfin, le climat, encore une fois, est un bon exemple, parce qu'il y a un certain nombre d'effets climatiques, comme la tempête qu'on voit un petit peu en ce moment, où on ne sait pas trop si c'est, est-ce que c'est un changement climatique, pas un changement climatique. Tout dépend comment on l'interprète. On est dans quelque chose d'indiscernable. On peut se dire qu'on peut attendre encore longtemps, comme ça, à monter 1, 2, 3 degrés, peut-être éventuellement, avant de se dire « Ah oui, c'est à cause du changement climatique », que ça devienne véritablement évident. Et là, évidemment, ce sera un petit peu tard. Mais on peut se dire aussi que l'interprétation des phénomènes, même faiblement catastrophique, peut être interprétée comme un signe de nécessité de changement urgent, à un moment ou à un autre, et on ne sait pas quand. Donc l'avenir, il n'est pas écrit. C'est ça que je veux dire.
Prenons l'énergie, on met l'essence à 4 fois plus cher qu'aujourd'hui, ça aura des effets immédiats. Et ça, personne politiquement ne le fera. On ne le fera que lorsque, tout naturellement, du fait d'un certain tarissement de la ressource, etc., de l'augmentation de la consommation chez les émergents, etc., on va se retrouver de toute façon avec une énergie beaucoup plus chère. Alors à ce moment-là, oui, on va changer nos modes de vie.
Oui, mais ça peut être, si je prends l'exemple de l'Ardèche, avec le Total arrivant en Ardèche, beaucoup de gens ont fait un progrès considérable dans l'intelligence de l'énergie. Il y a une motivation là, tout de suite. À Paris, ça n'a pas provoqué de grands changements. Hein. Mais si Total est aux portes de Paris, ça va peut-être changer un peu les choses aussi. Voilà, enfin, il y a des phénomènes comme ça aussi qui peuvent provoquer des prises de conscience, évidemment. C'est aussi la vérité qui dérange et qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie d'écouter et pas envie de prendre conscience. Et on le voit bien, quand on écoute la radio le matin, bon, ce genre de discussion, c'est entre... La chanson, machin truc, et puis le divertissement, et puis les nouvelles de l'économie. Puis on ne va pas en parler trop longtemps. Effectivement, parce que nous sommes aussi des pays qui bénéficient structurellement au niveau institutionnel, qui bénéficient largement du système. C'est ça aussi. Donc ça dérange beaucoup d'intérêts, ça c'est évident. Maintenant, voilà, est-ce qu'on regarde les choses qui vont dans le bon sens? Est-ce qu'on regarde les choses qui vont dans le mauvais sens? Il n'y a pas de réponse à ça, hein. C'est un positionnement personnel. Il n'y a pas de... Tout en étant d'accord sur les faits, on peut en tirer des conclusions divergentes, quoi. Là aussi, c'est le principe d'originalité de Moscovici qui prévaut. Ça ne répond pas complètement à la question, hein, mais il n'y a pas véritablement de réponse universelle. Ce que je dis aussi aux étudiants, je dis, mais ce qui va... Il n'y a pas la technique qui va toucher tout le monde. Le film qui va toucher tout le monde. Le prix du pétrole, par exemple, c'est même pas... Même ça, ce n'est pas un bon exemple, parce que si le prix... C'est un peu ce qu'on a vu avec la taxe carbone. Qui est en capacité d'augmenter x15 le prix du pétrole? Personne. C'est une vue de l'esprit. Donc ceux qui veulent absolument poursuivre cet objectif-là, à mon avis, ce n'est pas du tout une bonne manière de prendre le problème. L'écotaxe, c'est un échec depuis 25 ans. Bon, est-ce qu'il faut continuer à se battre pour l'écotaxe? Les progrès qui ont été faits sur... C'est ce que je disais aux économistes l'été dernier, d'ailleurs. Je leur disais, j'espère qu'il n'y a pas trop d'économistes dans la salle, je leur disais, mais au lieu de vous battre les uns pour les permis, les autres pour les taxes, regardez que depuis 25 ans, ce qui a marché, ce n'est pas du tout ça. Ça, c'est au point mort depuis 25 ans. Le permis carbone européen, c'est une catastrophe. Bon. Ce qui a marché, c'est quoi? C'est la réglementation thermique du bâtiment, qui s'est affinée depuis la première en 1975, progressivement. C'est la multiplication, je l'ai vu physiquement dans mon école, des vélos. Il y avait zéro vélo quand je suis arrivé en 2004. Maintenant, il y a des tonnes de vélos. Les étudiants viennent beaucoup en vélo. C'est l'aménagement des villes. À Paris, bon, c'est un exemple un peu facile, entre guillemets, parce que Paris est une ville pour piétons déjà, quoi, hein. Mais voilà, c'est le genre de choses qui a fonctionné. C'est les étiquettes A++ sur les machines à laver. Il y a plein d'exemples qui ne sont pas du tout ni les taxes ni les permis. Donc, bon, voilà, il faut documenter un petit peu ce qui marche et ce qui ne marche pas, et plutôt que de prendre des mesures qui... Hein, le signal prix, moi, j'y crois qu'à moitié, le signal prix, parce que, bon, x15, le prix du pétrole, évidemment, pourquoi les gens vont réagir comme ils ont réagi en 2008 ou quand ils ont réagi face à la taxe carbone? Pourquoi c'est moi qui paye? Et pourquoi c'est pas les autres? Quel que soit le niveau de taxe, il y a toujours un... Soit c'est trop faible, ça n'a aucun effet, soit dès que vous mentez, il y a une catégorie socio-professionnelle qui se trouve affectée de manière disproportionnée par l'augmentation de la taxe carbone. Donc, ça ne marchera pas. Il vaut mieux prendre... C'est pour ça que j'en discutais tout à l'heure avec Pascal Lemaire. Il disait qu'il faut des approches, malheureusement qu'il y en a très peu en économie, des approches, ce qu'on appelait avant l'économie industrielle. Je parle à une population qui doit connaître ça un petit peu. L'économie industrielle, aujourd'hui, qui ne s'enseigne pratiquement plus, mais qui était fondée sur l'analyse de logique d'acteurs. L'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, essaye, à mon avis, de ressusciter ça avec sa logique de filière. Hein, ou alors certaines associations écolo, comme le Réseau pour la transition énergétique, c'est des logiques d'acteurs. Donc ils disent, allez, qu'est-ce qui va bien marcher comme projet? Et on va pousser les projets qui sont dynamisants. Par exemple, une collectivité territoriale qui veut devenir 100% autonome en énergie, ce qu'ils appellent les territoires à énergie positive, les TEPOS. Bon, c'est un projet de territoire, ça génère de la dynamique, ça génère des apéros, ça génère tout un tas de trucs sympas, les gens se rendent compte. Non, mais c'est ça, une dynamique de projet, c'est pas simplement on investit pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce qui est quand même un peu chiant sur les bords. Non, c'est une dynamique, voilà, de projet, où les gens se retrouvent autour d'une action, une action qui va dans le bon sens, une réalisation, une aventure, quoi, hein. Et il y en a plein, des aventures sur le territoire français de ce type-là, beaucoup moins qu'en Allemagne ou au Danemark, mais il y en a quand même pas mal. Si on regarde la dynamique allemande, c'est, ça n'a rien à voir. C'est, voilà, des tonnes de projets collectifs, de coopératives, de production d'énergie, et vas-y, je monte le toit solaire, et de l'autre côté, la petite coopérative d'éoliennes. Et, bon, voilà, on se fait plaisir aussi.
Oui, mais ce sont quelques gouttes d'eau dans l'océan. Comment peut-on être optimiste actuellement quand on regarde le changement climatique et ça, quoi qu'on fasse, on aura 3 degrés avant la fin du siècle. Quand on en discute avec des gens sérieux qui bossent là-dessus, ils disent « ce serait étonnant qu'on ne soit même pas à 4 degrés ». De plus, il y a la pollution, la surpopulation, la baisse des ressources naturelles, moi je ne vois pas comment on peut être optimiste. Alors on peut, alors il y a des gens qui disent les voitures consomment moins, on pollue un peu moins, mais comme il y a de plus en plus de monde qui utilise des bagnoles, eh bien la pollution elle augmente quand même si on diminue le niveau de pollution de chaque voiture. Moi personnellement, tous les discours que j'entends, à l'UO comme ailleurs, dans toutes les revues scientifiques que je lis, je ne vois pas comment on peut être actuellement optimiste. Même si on freinait la consommation, il y en a plein d'autres dans le monde qui ne la freineront pas, et la pollution va augmenter, etc. Je ne vais pas redire ce que je vais dire, mais je ne vois pas comment on peut être optimiste. Enfin, moi, personnellement, je ne le suis pas, et j'aime bien Ravi, j'aime bien tous ces gens-là, mais voilà, c'est bien au niveau de l'Ardèche, de là où il habite, mais ça ne va pas plus loin. Il n'appliquera jamais ça en Beauce ni en Brie.
Oui, alors, je reviens sur ce que je disais, à savoir que la majorité, c'est ce qu'on peut observer. Donc la majorité, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire c'est toutes les tendances qui ne vont pas forcément dans le bon sens. Ça, c'est la majorité. Après, quand on regarde dans le monde, partout, et j'étais en Inde, et partout, il y a des forces de changement. Les forces de changement, évidemment, sont minoritaires, parce que si elles étaient majoritaires, elles auraient gagné. Donc, c'est un peu évident de le dire, mais voilà, le changement vient toujours de minorités. Donc quand on dit le changement est minoritaire, c'est une évidence, quelque part. Ça ne dit rien sur ses chances de succès, parce qu'il faut forcément qu'il soit minoritaire pour commencer. Et quand on regarde à l'échelle mondiale donc toutes ces tendances-là, ouais, je dirais quand même que ces tendances ne sont pas négligeables. Si on regarde uniquement dans le domaine de l'énergie, l'investissement, l'année dernière, l'investissement en nouvelles capacités de production dans le domaine de l'énergie, capacité de production d'énergie qu'on peut acheter, quoi, hein, plus que la moitié de ces montants-là, c'était de l'énergie renouvelable, 300 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Ça fait longtemps que la Chine et l'Inde plantent plus d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques que nous. Ils mettent des quantités qui sont énormissimes.
Je comprends bien, mais il y a l'accumulation de tout ce qui a été fait avant.
Oui, oui, oui.
Et la température continuera à augmenter. L'air est pollué. Moi, je fais de la sismologie, je vais vous dire, les nappes phréatiques sont polluées, etc. Et ça, on ne reviendra pas en arrière, à moins qu'on ait des milliers de pompes qui vont pomper les nappes phréatiques pour filtrer les eaux, etc., enlever les traces de médicaments, de produits chimiques, de machins, de trucs. Moi, je
ne sais pas
comment on peut être optimiste.
À un moment,
j'aimerais bien l'être. Hein.
À un moment, je pense, ben voilà, il ne faut pas céder sur votre désir. J'ai envie d'être optimiste, c'est exactement ce que j'allais dire. J'ai dit, ah, mais est-ce que ça vous rend heureux d'être pessimiste?
Non, franchement, non.
Voilà.
Non, je suis triste, mais... Je me dis quelque part que c'est peut-être
ça
l'évolution.
C'est bon,
il y a eu des cataclysmes.
Pas
et on va droit vers un cataclysme. Et c'est triste, mais bon. Ça n'empêche pas aux gens de vivre l'instant présent. Hein. On peut avoir une vue globale très pessimiste et vivre l'instant présent de façon heureuse. Hein. Si on pense
à la question, c'est est-ce qu'on le vit de manière authentique?
C'est ça la question. Parce qu'il y a vivre l'instant présent de manière inauthentique, du genre, une fois comme ça, c'était il y a des années, et j'étais allé à une rencontre sur communication et développement durable, c'était 2005, quelque chose comme ça, et on était emmené en taxi du TGV jusqu'à un château perdu dans les Alpes. Et c'était une Peugeot 605, je crois, ou quelque chose comme ça, biturbo. Le truc, un avion de chasse. Alors je dis au chauffeur, dites donc, vous avez une belle voiture, ça consomme pas un peu? Il me dit, mais de toute façon, il n'y a plus beaucoup de pétrole, alors justement, je voulais me faire plaisir un peu avant. Authentique, hein, authentique. Donc, alors là, la question, c'est la personne qui fait ça, alors si elle fait un petit tour, éventuellement, pourquoi pas, mais rouler tous les jours avec une voiture comme ça, est-ce que quand elle se pose la question, vraiment, son désir de super voiture, c'est vraiment le truc le plus important? Et je suis sûr qu'il m'aurait répondu, non, c'est vrai, c'est un peu bête. Hein. Donc, tout est là, hein, tout est là, tout est sur cette question de désir.
Oui, je reprends mon propos un peu incongru tout à l'heure sur les EPR.
Allons-y, allons-y.
Bon, pour descendre un peu au niveau bas, si on veut, vous parlez de gens qui, à la base, prennent de bonnes décisions, qui quelquefois sont contraires à des absurdités qui viennent d'ailleurs. Je prendrai l'exemple de la population et des ouvriers de la centrale de Fessenheim qui s'opposent à la fermeture imbécile demandée par le gouvernement, poussée par les écologistes. Et ces gens-là ont raison, et il faudrait les soutenir un peu plus. Et d'une manière beaucoup plus générale, évidemment, développer le nucléaire, qui ne consomme pas de ressources naturelles, qui n'émet pas de CO2, qui ne pollue pas.
Et qui ne coûte rien. Et qui ne coûte rien, c'est ça?
Et qui coûte, mais qui coûte pas plus que les éoliennes qui servent à rien. Les éoliennes qui servent à rien.
Non, mais sur le nucléaire, de toute façon, il y a les enjeux affectifs. Hein, et ceci dit, le prix de le dernier prix du mégawatt EPR, on en est à 100 euros par là, et l'éolien, c'est 80-90.
Oui, seulement le nucléaire, il marche toute la journée, l'éolien, il marche quand il y a du vent. C'est même pas la même chose. On ne peut pas comparer. Et en plus, le prix de l'EPR a été gonflé pour des raisons tout à fait artificielles. Correspond pas à des réalités. Ce serait trop long. Hein.
Ouais. Non, c'est vrai que c'est un peu long, mais voilà. Parce que tendanciellement, les renouvelables coûtent de moins en moins cher et les nucléaires de plus en plus cher. Quand même.
Sans compter les déchets. Ils coûtent de plus en plus cher en raison de manipulations politiques faites par des gens qui se disent écologistes. Alors qu'ils font le contraire de l'écologie.
Il y a des éléments que j'ai cité le nom de Jean-Marc Jancovici.
Oui.
Vous en pensez quoi de son discours?
Alors, j'ai beaucoup de points d'accord avec Jean-Marc Jancovici, mais la fois où il a dit à la télé quand même que pour, c'était le Journal de France 2, que pour remplacer les centrales nucléaires avec du photovoltaïque, il faudrait couvrir l'Europe entière de panneaux photovoltaïques, c'est-à-dire 1000 fois plus que la réalité, j'ai trouvé que c'était un peu excessif, que ça induisait les gens en erreur. Et quelques semaines après, il y a l'agence locale de l'énergie de Bordeaux qui a adressé une longue lettre à France 2 en expliquant que c'était vraiment n'importe quoi. Et voilà, Jean-Marc Jancovici, il y a un tropisme pro-nucléaire et anti-renouvelable. Bon, je ne sais pas. Non, mais ceux qui sont d'accord vont être d'accord, c'est pas surprenant. Je ne sais pas si vous voulez rentrer dans le débat sur l'énergie. Hein ? Moi, ça fait, je dirais que ça fait combien de temps que je suis ça ? Ça fait une bonne quinzaine d'années. Je me rappelle bien qu'au début, on a commencé par dire « Oui, mais s'il y a un petit peu d'intermittence dans le réseau, on ne saura pas gérer. » Bon, il y a des Landes en Allemagne qui passent à 100% d'énergie intermittente et ils gèrent. Alors on va dire oui, mais c'est parce qu'ils ont aussi du charbon. C'est vrai qu'ils ont du charbon, mais il faut regarder l'évolution du mix énergétique allemand. La quantité de charbon n'a pas augmenté. La quantité de nucléaire a diminué et la part de renouvelable a augmenté. C'est-à-dire, ils sont sur un objectif, sortir du charbon, sortir du nucléaire. Les solutions à Mines Télécom, les gens aujourd'hui sont convaincus qu'il est tout à fait possible d'augmenter très fortement la part d'énergie intermittente avec ce qu'ils appellent les réseaux intelligents. Alors, on n'est peut-être pas obligé d'en venir là, mais il suffit d'imaginer, hein, ce que c'est l'image que je donne un petit peu. Bon, d'abord, il faut voir que toutes les renouvelables ne sont pas intermittentes. Il n'y a que le photovoltaïque et l'éolien. La biomasse, ce n'est pas intermittent. L'hydraulique, ce n'est pas intermittent. Le méthane, c'est pas... Enfin, il y a plein de solutions renouvelables qui ne sont pas intermittentes. Les hydroliennes, ce n'est pas intermittent. Bon, voilà. Donc, dans les intermittentes, qui sont effectivement l'éolienne et le photovoltaïque qui se développent énormément vite en Allemagne, en Chine. Le photovoltaïque, ça se développe à une vitesse à l'échelle mondiale qui est vraiment... C'est une grosse partie des 300 milliards dont je parlais, c'est du photovoltaïque, en fait. Hein. C'est vraiment... avec les éoliennes, c'est les deux... C'est les deux qui sont intermittentes. On peut imaginer, et aujourd'hui, c'est ce qui est imaginé, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, avec... à la suite de Rifkin, plus ou moins. Enfin, ils ne vont pas faire exactement la même chose que Rifkin, hein, parce que... Mais c'est des systèmes de micro-stockage un peu partout, plutôt que des macro-stockages, des micro-stockages qui permettent de lisser les courbes. Je vous encourage à aller voir l'étude de l'ADEME, 100% renouvelable, vers un mix 100% renouvelable, dans lequel ils passent à 100% d'électricité renouvelable. Et ils montrent que ça coûte pas plus cher que de continuer le nucléaire, déjà. Les coûts sont pareils. Ils vous montrent heure par heure ce qui est produit et ce qui est consommé. Parce que le nucléaire, ça produit tout le temps, certes, mais la demande, elle varie. Donc, de toute façon, vous avez un problème d'intermittence de la demande dans ce cas-là. Donc, le problème, c'est toujours, que ce soit du nucléaire ou pas du nucléaire, c'est toujours de faire correspondre l'offre et la demande. Et c'est prévisible. La demande est quand même assez prévisible. L'offre, même dans l'intermittence, est assez prévisible parce que le jour et la nuit, ça arrive quand même régulièrement. hein, en gros, ça se prévoit. Hein. Il suffit de regarder la télé le soir, il donne l'heure à laquelle le soleil se couche et tout. Le vent, les gisements de vent, les gisements de soleil, ça se prévoit quand même pas mal. Quand on regarde combien produit un panneau solaire dans le sud et dans le nord de la France, il n'y a pas une grande différence. C'est 1,5 dans le sud, 1 dans le nord. Ce n'est pas 1,5, 0,2. Le nord produit pas mal, il suffit qu'il fasse jour, c'est ça qu'on oublie un petit peu, on croit qu'il faut qu'il y ait du grand soleil. Non, dès qu'il fait jour, ça produit. Alors moins, ça produit moins, hein. mais ça produit. Donc tous ces problèmes-là, Amine Télécom en tout cas, aujourd'hui, les gens sont convaincus que c'est possible de le résoudre. Le consensus aujourd'hui, Amine Télécom, il est que c'est faisable. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui.
Monsieur, s'il vous plaît, je peux pas.
Oui, alors voilà, très bonne question. Comment rend-on la décroissance compatible avec l'emploi? Excellente question. Alors, il se trouve que j'ai plusieurs réponses à ça. Une première réponse, c'est que quand vous regardez la transition énergétique et l'idée de passer vers le renouvelable et l'efficacité énergétique plutôt que de continuer ce qu'on est en train de faire, il y a des études qui montrent, hein, le scénario négawatt, a été chiffré au niveau du contenu en emploi net, et c'est plus 700 000 emplois nets. Hein, donc, ça veut dire les emplois, il y a quelques emplois détruits, pas beaucoup d'ailleurs, parce que c'est beaucoup de reconversion d'emplois. D'ailleurs, les spécialistes du génie thermique restent des spécialistes de génie thermique, les spécialistes d'électricité aussi, mais ils font des choses, les maçons aussi, mais ils font les choses un peu différemment. C'est ça, en fait, la transition énergétique. Donc, c'est garder un peu son métier, hein, que les plombiers se mettent à installer des panneaux solaires thermique, par exemple. C'est voilà, une évolution bien connue, parce que c'est déjà le cas depuis quelques années, voire même quelques décennies. Donc, plus 700 000 emplois. Si vous regardez en agriculture, alors c'est des études sectorielles, hein, mais après, je vais vous parler d'autre chose, des études sectorielles comme ça, regardez au niveau de l'agriculture, le passage en 100% bio, entre 1 et 2 millions d'emplois, en plus, pour passer d'une agriculture où vous êtes endetté, exploité, pollué, je ne sais pas ce qu'il y a encore comme inconvénient, mais enfin, vous ne gagnez rien, enfin voilà. À une agriculture où vous êtes aussi maudit par les voisins, maudit par les consommateurs, à une agriculture où vous êtes en bonne santé, vous avez des horaires de travail un peu plus, 70 heures seulement, le prix est rémunérateur, les gens vous remercient, enfin, donc ça ne semble pas complètement désagréable comme changement. Alors après, il y a la transition où, effectivement, vu comme ils sont endettés pour une bonne partie d'entre eux, c'est juste pas possible, quoi, hein. On voit ça en ce moment, la énième crise de l'agriculture, dont on ferait bien de se soucier, à mon avis, pour redonner, permettre aux agriculteurs de travailler dignement. Mais voilà, les urbains, c'est un peu de difficulté apparemment à se soucier, parce que c'est quand même, ça n'arrête pas de se répéter. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont arriver à se faire entendre. Bon, voilà, entre 1 et 2 millions. Maintenant, en décembre, j'étais à un jury de thèse, une thèse assez intéressante, qui était un modèle économique fondé sur à peu près le même modèle que le modèle du MIT, qui s'appelle, enfin, un des descendants qui s'appelle donc le MIT pour le rapport du Club de Rome. Ce modèle est fondé sur des matrices input-output. En gros, on dit, bon, pour fabriquer une voiture, il faut tant d'heures de travail d'acier, tant d'heures de travail, il y a des coefficients comme ça. Hein. Donc, pour chaque pièce produite, on a la quantité de pièces, on a le temps qu'il faut pour fabriquer la pièce, et avec ça, on modélise toute l'économie. Et le doctorant a eu l'idée assez intelligente, me semble-t-il, d'aller prendre plusieurs avenirs possibles. Un avenir croissance verte. Alors, croissance verte, c'est quoi? C'est de dire que sur les comportements, on ne change rien. Mais on suppose, on ne change rien, c'est-à-dire qu'on n'augmente pas non plus la consommation et la production, mais on suppose une amélioration des technologies en efficacité, notamment efficacité écologique, énergétique et tout, deux fois plus rapide que tout ce qu'on a connu jusqu'ici. Ce qui est une sacrée hypothèse, hein. C'est une grosse, grosse hypothèse, ce n'est pas du tout ce qu'on constate en ce moment, hein, avec les évolutions contemporaines. Croissance verte. Et après, il a fait trois scénarios de décroissance. Décroissance modérée, 20% de baisse du PIB d'ici 2050, 30% et 50% de baisse du PIB d'ici 2050. Il a regardé, le modèle lui donne aussi, est-ce qu'on paye la dette, combien d'emplois à la fin. Et il y a un des scénarios de décroissance qui arrive à 80, le plus décroissant, arrive à 87% de réduction des gaz à effet de serre, je crois, plein emploi, la dette est remboursée. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a été demandé aux militants de la décroissance, du mouvement, comment ils voyaient le monde, pour remplir les variables dans son modèle. Et avec ça, il a fait tourner, et il est arrivé à ce résultat-là. Donc il n'y a aucune... Je vous donne les résultats quand même pour croissance verte. Croissance verte, on arrive avec une dette qui augmente considérablement. On arrive à 60% de réduction des gaz à effet de serre. Au niveau de l'emploi, je ne sais plus, mais ça ne se réduit pas, ça augmente un petit peu, je crois, 15% de chômage à la fin au lieu de 10. Il n'y a pas de... Sur le court terme, les gens parlent tous de croissance, et s'il y a de la croissance, il y a de l'emploi. C'est vrai à la marge seulement, hein, au sens des économistes, à la marge. C'est-à-dire l'ajustement. Quand l'économie croît un petit peu, effectivement, elle embauche. Enfin, c'est tellement évident que je ne sais pas pourquoi... Mais si vous regardez sur le long terme, sur 100, 150 ans, il n'y a aucune relation entre la croissance et l'emploi. Aucune. Donc, ce qui compte pour l'emploi, c'est le contenu de la croissance, encore une fois. Et si les politiques, on en discutait tout à l'heure avec Pascal Lemaire, si les politiques publiques se soucient du contenu en emploi, de ce qu'elles favorisent, de ce qu'elles décident, elles peuvent voir qu'il y a des secteurs qui créent plus d'emplois que d'autres pour un même argent dépensé. Soit ça part dans le capital, soit ça part dans l'emploi. On donne toujours l'exemple du théâtre et des industries culturelles qui créent le plus d'emplois par argent dépensé. Parce que c'est quasiment que du travail, c'est du salaire pratiquement. Hein. Si vous achetez un iPad, par contre, je ne vais pas dire la centrale nucléaire, mais si, chaque emploi dans le domaine du nucléaire coûte extrêmement cher, beaucoup plus cher que dans le domaine du renouvelable et de l'efficacité énergétique. Donc tout ça, ça se calcule. Pourquoi les politiques publiques ne le calculent pas? Pourquoi les économistes ne le calculent pas? Pourquoi cette voix-là n'est jamais entendue dans les débats? Je vous laisse essayer de deviner pourquoi. Mais on peut montrer effectivement qu'un scénario de décroissance est compatible avec un scénario de plein emploi. Après, dans les propositions de la décroissance, il y a aussi l'idée de réduction du temps de travail. Il y a aussi l'idée de revenus de base. Il y a aussi, donc, hein, dans le bouquin qui circule, si vous regardez, il y a tout un tas... Alors ça, c'est plus les mouvements de la décroissance. Hein, mais par rapport à la question qui était de dire que devient l'emploi, il n'y a aucune nécessité structurelle, sinon le blocage dans la tête des décideurs, ce qui est quand même important comme blocage, c'est vrai. Mais on peut faire une économie de décroissance génératrice d'emploi. C'est même plutôt ça qui est logique, en fait, hein. D'aller vers plus de main-d'œuvre et moins de machines, d'une certaine manière. Alors, pas pour les travaux pénibles, mais pour tout un tas de choses, parce que la machine est quand même bien utile dans un certain nombre de cas. Mais, par exemple, l'agriculture biologique, c'est ça. C'est une moindre mécanisation par rapport... Alors, c'est pas zéro mécanisation, il y a une mécanisation, mais c'est des petites machines. Avec un agriculteur, avec 3 hectares, il vit, alors qu'un maraîchage, alors qu'une exploitation de betteraves dans le nord de la France, il y a 3 personnes pour 700 hectares. Bon, voilà, évidemment, il n'y a plus beaucoup d'emplois dans ce cas-là. Hein. Pareil pour ce qui est de la distribution, plutôt des petits magasins plutôt que des gigantesques magasins, et toutes ces choses-là. Donc, il n'y a aucune raison que ce soit incompatible avec l'emploi. Sinon, la pensée dominante de l'emploi, dont je vous laisse juge du résultat, hein, en tout cas, on n'est peut-être pas d'accord avec ce que je viens de dire au niveau de l'emploi, mais enfin, dire que la croissance va résorber l'emploi, hein, ça fait 30 ans. À un moment, il faut peut-être changer quand même. Parce que ceux qui attendent depuis 30 ans, hein, déjà, c'est les descendants de ceux qui attendaient déjà, parce qu'ils ont trop attendu, maintenant ils sont à la retraite. Alors, non mais vous voyez, c'est quand même grave, je trouve, d'aller... François Hollande, priorité, c'est l'emploi, qu'est-ce qu'il a fait? Rien, enfin pour moi, rien. Le précédent, qu'est-ce qu'il a fait? Presque rien. Bon, ah, c'est pas assez, voilà. C'est mon avis, je trouve que c'est quand même assez incroyable de ne pas voir plus de gens qui s'engagent sur d'autres manières de voir les questions d'emploi.
Quand même un problème dans cette vue, c'est qu'avec, par exemple, l'agriculture biologique qui crée beaucoup d'emplois pour sortir, en général, moins de produits en quantité, ça veut dire, et pareil pour la distribution en plus petits magasins, ça veut dire, si on paye les emplois au même niveau de salaire, que le pouvoir d'achat baisse, parce que ce qu'on rachète, soit on va l'acheter ailleurs, et donc ça ne marche pas, si on reste libre, soit on achète prêt, ce qui est écolo aussi, mais alors, il faut beaucoup plus dépenser. Et je pense que c'est dépenser pour acheter.
Alors, oui, c'est-à-dire que la décroissance du PIB, c'est moins consommer, moins produire d'un point de vue monétaire. Effectivement, bah oui, c'est bien ce que ça veut dire. Hein. Maintenant, est-ce que c'est moins de qualité ? Si on prend l'exemple, quand on est obligé de prendre sa bagnole, si après on n'est plus obligé de prendre sa bagnole, est-ce qu'on est plus pauvre ? Ça ne paraît pas évident. Si on achète, comme disait Xavier Belin, je vous donne un autre exemple avant l'agriculture, l'exemple des médicaments. Il y a eu l'assise des médicaments, les assises du médicament à Bobigny il y a quelques années. Il y a un groupe de médecins qui se sont dit, bon, finalement, on vend 10 000 médicaments dans les pharmacies, combien sont réellement utiles ? 150. Est-ce que se passer de tous les médicaments inutiles, des 40% de budget marketing dans le prix des médicaments, est-ce que tout ça, c'est vraiment, on va être plus pauvre ? Je ne crois pas. Donc, il y a tout un tas de consommations réellement inutiles. Et si on ne les a pas, ça ne nous manquera vraiment pas. Après, dans ce qui reste, oui, effectivement, il va falloir payer certaines choses plus chères, notamment l'agriculture est un bon exemple. Maintenant, est-ce qu'il faut suivre ce que dit Xavier Belin ? Xavier Belin qui dit, nous, on produit l'agriculture de qualité, c'est gentil, comme il dit avec son style inimitable, mais nous, on produit, donc Xavier Belin, nous, on produit pour les 80% des Français qui ne veulent pas mettre plus de 11% de leur budget dans l'alimentation. Est-ce qu'on est obligé d'être d'accord avec ça ? Je ne crois pas. Est-ce que l'agriculture biologique produit moins ? Ben, moins de quoi ? Regardez, la qualité, moins de quoi ? Quand on regarde le contenu calorique de l'agriculture biologique, il est à peine inférieur et souvent supérieur à l'agriculture conventionnelle. Tout simplement, pourquoi ? Parce que quand vous achetez de la viande pas chère, c'est gonflé d'eau, de sucre, de graisse, et voilà, le contenu, la qualité n'est pas au rendez-vous. Si vous regardez un peu dans les... moi, je connais un certain nombre de personnes, alors c'est pareil, comme c'est des pratiques alternatives, il n'y a peut-être pas des études systématiques, mais pour le même prix, ce que les gens achètent dans leurs 11 fameux pourcents, ils peuvent acheter tout en bio en changeant les menus. Alors évidemment, je ne dis pas c'est facile. Hein. Je ne dis pas c'est facile. Je ne dis pas c'est facile parce que quand on habite dans une banlieue pavillonnaire où il n'y a pas le moindre magasin bio avant je ne sais pas combien. Voilà. Donc il y a aussi des manières quand même de mettre en place des systèmes d'alimentation, de consommation qui permettent de faire face à ce problème-là, plus de vrac, des choses comme ça. Donc voilà. La réponse, elle n'est pas aussi simple que ça. C'est ça que je voulais dire. Il y a quand même des moyens. Sinon, le revenu, oui. À partir du moment où le revenu est extrêmement bas, on va avoir tendance, comme je disais tout à l'heure, pour rester dans la classe moyenne, pour consommer comme tout le monde, on va, il y a des statistiques qui montrent ça, le contenu en carbone des 10% les plus pauvres, pour 100 euros, est plus élevé que les 10% de classe moyenne. Pourquoi ? Ben parce qu'ils vont acheter des produits qui sont très industrialisés, parce que c'est ceux qui seront les moins chers, tout simplement. La veste Decathlon plutôt que la veste North Face. Moi, je prends toujours cet exemple-là. La North Face, c'est 120 euros, la Decathlon, c'est 20 euros. Oui, mais la North Face, oui, il y a plein de travail manuel et plein d'intelligence, et pour la même quantité, sans doute, de matière. Donc l'impact carbone, il est pareil, mais avec plus de travail pour la veste North Face. Mais à la fin, c'est 120 euros. Enfin, 120, c'est le premier prix. Hein. Non, mais voilà. Tout ça, c'est aussi des réalités. Un changement de mode de vie ne peut pas faire abstraction de tout ça. Si on fait comme si tout le monde vivait dans le centre de Paris, évidemment, on passe à côté de la plaque. C'est parfois ce qu'on entend un peu trop, d'ailleurs, de prendre le cas parisien pour une généralité. Hein. Mais voilà. Donc, la baisse de revenus n'est pas nécessairement... une contrainte. Maintenant, c'est vrai que c'est une rupture. C'est une rupture et d'un point de vue on va dire, la croissance, c'est aussi une manière d'acheter la paix sociale. Parce que les syndicats veulent plus de revenus, tout le monde veut augmenter son revenu plutôt que le baisser. Les pauvres veulent plus d'argent, les riches aussi. Donc, s'il y a de la croissance, tout le monde peut avoir un peu plus d'argent. Et c'est là qu'on voit aussi que, historiquement, nous avons une société dans laquelle le conflit social majeur est quand même autour de la répartition des fruits de la croissance. Voilà, parce qu'on est dans une société de croissance, dans laquelle la question, c'est le partage du gâteau de la croissance. Et passer à une société dans laquelle l'enjeu, c'est plutôt le bien-vivre, C'est pas simple, c'est là qu'on voit que c'est pas simple. Il faut faire des efforts et se dire, inventer des choses, inventer, on dit toujours les AMAP, mais c'est une bonne invention quand même, c'est pour aider les agriculteurs à passer en bio, le réseau Biocoop, toutes ces alternatives inventent des trucs et d'autres en inventent encore. Donc c'est un monde qui reste en partie à inventer. Ça c'est sûr, il n'y a pas un modèle qui est en main. D'ailleurs, les gens disent souvent, la décroissance, il n'y a pas quelqu'un qui arrive en disant, voilà, ça c'est mon programme. Parce que c'est un mouvement avec, si vous regardez un petit peu le vocabulaire de la décroissance, avec des choses qui peuvent être contradictoires. D'ailleurs, j'ai dit les cinq sources, chacun va peut-être tirer dans un sens, dans un autre. Et voilà. Mais c'est un mouvement vivant, ouvert aussi, c'est ça aussi, parce que c'est un mouvement à investir, où chacun peut apporter sa pierre. Ce n'est pas un truc, soit vous prenez, soit vous partez. Donc c'est quelque chose qui est à s'approprier. Mais je pense qu'il faut poser les choses clairement. Oui, effectivement, le production-consommation, monétairement, vont baisser. Par contre, il y a tout un tas d'exemples. J'ai pris dans le domaine de... Alors, il y a des points plus difficiles. Les technologies de l'information, c'est un point difficile. L'agriculture, c'est assez facile. Sur l'habitat, transport, il y a pas mal de... Il y a une marge de manœuvre qui est quand même assez importante. C'est ça qu'il faut voir aussi. Je prends souvent... J'ai pris de PowerPoint, mais je prends souvent le bilan en gaz à effet de serre d'une famille moyenne qui est 7 fois trop important par rapport à ce qu'il faudrait à l'échelle mondiale. En fait, on voit qu'on peut assez facilement arriver à, pas à l'objectif, mais pas loin. Parce que la chaleur, déjà, vous pouvez tout enlever. Et la chaleur, c'est 50% de la consommation française d'énergie. Et la chaleur, on peut réduire à pratiquement, alors pas la chaleur industrielle, mais la chaleur chez les particuliers, ça peut se réduire pratiquement à zéro, déjà. Après, il y a l'électricité spécifique, 15%. Et après, le reste, c'est le transport, 35%. Le transport, avec une logique de proximité, peut être réduit beaucoup. C'est-à-dire, il faut se dire, bon, comment est-ce qu'on construit les villes pour que les gens n'aient pas besoin de leur voiture? Comment est-ce qu'on construit les infrastructures? Alors, déjà, c'est plus compliqué, le transport, mais quand même, c'est pas parce qu'il y a des cas compliqués qu'il ne faut pas regarder les cas simples. Et il y a beaucoup de cas dans lesquels il est quand même assez simple. Je vous renvoie aussi une expérience qui a été faite, je crois que c'est Télérama qui avait fait ça une année, où ils avaient pris une vingtaine de familles et leur ont dit, bon, de manière expérimentale, vous vous passez de voiture. En plus, une famille avec quelqu'un très fanat de voiture, passionné de course, et vous vous passez de voiture totalement. Souvent, c'est des questions d'habitude. Vous passez totalement de voiture pendant 2 mois, ou 3 mois, je ne sais plus. Bon, ben au bout de 3 mois, on dit, vous pouvez reprendre la voiture. En fait, je ne sais plus, il y a, sur 20 familles, il y a 17 qui n'ont pas repris. Et même le fanat de voiture, ils ont continué à... Il a racheté une voiture, mais que pour le plaisir, pour le week-end. C'est-à-dire, les habitudes quotidiennes liées à la voiture sont restées de côté. On sous-estime quand même pas mal les marges de manœuvre. En faisant preuve un peu d'inventivité, il y a des marges de manœuvre qui sont quand même assez considérables. Donc voilà, c'est une question après d'optimiste, pessimiste. Pessimiste, on ne peut rien faire, et optimiste, on voit les marges de manœuvre.
Tout ce que vous dites, il y a des choses très justes, mais ce que je reproche à la tendance que vous représentez, c'est un point extrêmement précis, c'est la manière imbécile dont on a tué le nucléaire. Pour des raisons qui ne tiennent pas. Et tout le reste, dans ce que vous dites, il y a beaucoup de choses très justes. Mais d'accord.
Voilà, c'est l'heure. Je vous demanderai juste de bien me ramener le bouquin, je ne sais pas où il est, le gros pavé. Et ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez regarder un petit peu.